Je suis en compagnie d'Yves Citon. Nous parlons de ce manifeste écrit par Nick Srinsek et Alex Williams, Accelerate, manifeste pour une politique accélérationniste. Puis nous parlons de ton texte, Yves Citon, appelé Accélérer l'écologie. Pour introduire, ces deux auteurs, qui sont-ils, les universitaires anglais, et d'où parlent-ils ?
Alors moi je dois dire que je ne les connais pas très bien, j'ai rencontré une fois Nick Srinsek et puis je suis surtout tombé sur leur texte plutôt que sur leur parcours personnel ou sur leur horizon. Donc moi je peux davantage parler du texte que j'ai traduit et sur lequel j'ai fait deux ou trois petites réponses ou rebonds que de leur passé. Il me semble surtout qu'ils sont jeunes, en tout cas celui que j'ai rencontré, Nick, qu'ils s'inscrivent forcément dans une tradition marxiste, dans une sorte de renouveau du marxisme, et qu'ils ont été, alors je pense explicitement, mais ça sera à discuter, proches de milieux comme Tony Negri, comme les pensées de l'Empire avec Michael Hart, de Multitude. Et donc le fait qu'on ait traduit ce manifeste dans la revue Multitude, c'est sans doute pas un hasard, parce que c'est des gens comme Matteo Pasquinelli et autres qui nous ont un petit peu informés du fait qu'on en parlait beaucoup à l'étranger et qu'en France, il y avait une sorte de silence radio sur les accélérations. Donc moi je l'associe à cette constellation-là, des penseurs de l'Empire et des Multitudes. Il y a aussi, je crois, une autre constellation qui les revendique ou qui les a accueillis, qui est le réalisme spéculatif ou une sorte de pensée philosophique anglo-saxonne surtout, que moi je ne connais pas très bien, qui a été influencé par Latour, qui développe une sorte de pensée de l'objet qui essaye de décentrer l'humain, l'anthropos, désanthropomorphiser si on veut, la pensée philosophique et la pensée du capitalisme. Donc voilà, pour moi c'est des sortes de constellations un peu mouvantes, qui ne sont affiliées, j'espère, à aucun parti ou à aucune ligne préexistante, parce que tout l'enjeu, c'est justement d'essayer d'ouvrir des lignes, d'ouvrir des horizons sur lesquels on puisse se retrouver, qu'on soit négriste ou pas négriste, qu'on soit ex-marxiste ou pas, etc. etc.
Et d'où vient cette idée d'accélérationnisme ?
Alors, de nouveau, moi, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle me plaît parce qu'elle prend le contre-pied quand même de ce qu'on entend tous les jours et de ce qu'on se dit, enfin moi, en tout cas, ce que je me dis aussi tous les jours, à savoir que tout va trop vite, qu'on n'arrive pas à suivre, qu'on est épuisé, qu'on est tous en burn-out, que le capitalisme nous épuise et nous fait travailler beaucoup trop vite, c'est l'accélération de Hartmut Rosa, etc. Donc, on a toute une série de discours qui me semblent par ailleurs très juste, qui nous disent que le capitalisme est un facteur d'accélération de tout, et donc on n'a plus le temps, disons pour aller vite, de vivre, on n'a plus le temps de penser, on n'a plus le temps de vivre, on n'a plus le temps de créer, parce que le capitalisme ferait tout aller trop vite du fait de la pression financière, du profit à court terme, qui ramènerait tous les horizons à l'horizon de quelques semestres pour les prix des actions, voire de quelques nanosecondes avec le trading automatique. Donc il y a tout ce discours qui me semble juste, hein, il ne s'agit pas de dire que tout ça c'est de l'illusion et que c'est faux, mais je trouvais que quelqu'un qui nous dise tout d'un coup au contraire que ça ne va pas assez vite et qu'il faut accélérer, déjà c'est ça qui m'a plu et qui me plaît toujours. Pourquoi ? Parce que ça nous fait repenser la nature de cette accélération ou la nature de ce qui va vite de nos jours et de ce qui nous épuise. Et là, moi, je résumerai la thèse de l'accélérationnisme en disant, sans du tout nier tout ce qu'on peut dire par ailleurs sur les conséquences humaines, mentales, sociales, calamiteuses de cette espèce de pression au profit à court terme du capitalisme. Je n'ai pas mentionné les conséquences écologiques forcément calamiteuses de ceci. Donc, sans nier rien de ceci, ça nous dit aussi une autre vérité qui est l'envers de ça, à savoir que le capitalisme nous retarde, que le capitalisme n'avance pas du tout assez vite du point de vue des rapports sociaux qui sont nécessaires pour s'adapter au développement technologique. Et donc là, la thèse centrale, me semble-t-il, du manifeste accélérationnisme, c'est de dire accélérons les rapports sociaux et politiques pour les mettre en phase avec ce que pourraient nous autoriser les développements technologiques, et le fait qu'on ne le fasse pas c'est lié à des rapports de propriété, à des rapports de pouvoir qui sont constitutifs du capitalisme et qui, de fait, nous tirent en arrière, qui nous restent, qui nous emprisonnent, si on veut, dans le XXe siècle, alors que nous avons de nouvelles technologies, de nouveaux modes de communication, de nouveaux modes de production qui pourraient déployer un XXIe siècle tout à fait différent. Et en fait, ce sont les rapports de production capitalistes qui retardent, qui empêchent, qui bloquent, qui font obstacle, qui ralentissent ces progrès sociaux qui seraient permis par les progrès technique.
Et donc, une des idées phares de ce manifeste, c'est d'énoncer que le néolibéralisme serait intrinsèquement incapable d'engendrer une modernité alternative.
Oui. Alors, de nouveau, pour le moment, moi, j'ai parlé de capitalisme et peut-être que c'est plus juste. En fait, tu as raison, je crois, que tu me dises pourquoi toi, tu as parlé plutôt de néolibéralisme que de capitalisme. On peut effectivement préciser ou restreindre. Et c'est tout à fait intéressant de faire la référence au néolibéralisme parce que les accélérationnistes prennent l'idéologie ou le mouvement de pensée néolibéral comme une sorte de modèle, non pas comme un modèle de bonne société ou de contenu, mais comme un modèle d'organisation. Comment est-ce que l'idéologie néolibérale s'est constituée? Comment elle s'est construite? Comment elle s'est diffusée? À partir de quel appareil de guerre elle a conquis la planète? Là, même si on déteste le contenu de cette idéologie, nous disent-ils, on a quelque chose à apprendre. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais en tout cas là, il y a une référence centrale au néolibéralisme. Alors oui, si on veut traduire ce que je disais tout à l'heure par capitalisme, par néolibéralisme, effectivement, on a une réduction des rapports humains à des taux de profit. Des taux de profit strictement comptables, à savoir relevés par la finance, mais qui relèvent du bottom line, de ce qu'on compte en termes de dollars, d'euros et de profits, et que cette réduction de l'horizon temporel, d'une part, cette réduction de la multiplicité des formes de vie, des formes d'intelligence, des formes de coopération, à ce qui se manifeste par du profit pour des actionnaires, effectivement, ça bloque. Hein, ça devient un obstacle. Peut-être que ça l'a toujours été, d'ailleurs, c'est pas à moi de juger de ça, mais en tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, c'est un obstacle à une créativité, à un dépassement par de nouvelles inventions, en particulier des nouvelles inventions de rapports sociaux, d'institutions sociales. Donc, l'idéologie néolibérale nous empêche de créer un monde à la hauteur de nos technologies. Et en ceci, ça prend le contre-pied une autre idée commune qui, de nouveau, comme l'autre de l'accélération, n'est pas complètement fausse, mais au moins partiellement vraie, à savoir que le capitalisme aurait, alors non pas le néolibéralisme là pour le coup, mais le capitalisme depuis, disons, l'industrialisation, depuis un siècle et demi, aurait favorisé la multiplication de développements techniques et qu'on aurait aujourd'hui les ordinateurs portables, les téléphones numériques, Internet, etc., etc., grâce à cette espèce de ferment d'initiative et cette espèce de bain de culture qui ferait émerger toujours de nouvelles choses et les récompenserait par du profit, que serait le mode de développement capitaliste. Et là, je crois qu'il faut vraiment marquer peut-être une opposition entre quelque chose qui était peut-être vrai au XXe siècle, quoique si on regarde Internet, quoique si on regarde toute une série de ces choses-là, eh ben, ça a été financé par des financements publics. Internet, c'est d'abord l'armée, c'est d'abord des financements publics qui permettent la mise en place, et après, ça se fait réapproprier ultérieurement par le privé et le capitalisme, donc les choses ne sont pas aussi simples que ça. Mais admettons, même si c'est discutable, que le capitalisme depuis 150 ans ait favorisé l'éclosion d'innovations technologiques dont nous bénéficions, en même temps qu'elles foutent en l'air la planète. Elles amènent des choses absolument merveilleuses, des outils de collaboration, de pensée, d'interaction, d'écoute absolument merveilleuses. Donc, là, on pourrait opposer cette dynamique du capitalisme à une sorte de retournement funeste des 30 dernières années où le serpent se mord la queue, où le capitalisme, en devenant néolibéral, finit par épuiser, par bloquer, par paralyser les ferments de créativité. Et là, je crois que c'est quelque chose sur lequel toi-même, tu avais travaillé avant de lire l'accélérationnisme et avant même que Sreenicek et Williams soient peut-être sortis du berceau, je ne sais pas.
Non, pas encore. Mais c'est vrai que c'est une intuition qu'on peut avoir et qui est une intuition contre-intuitive. C'est-à-dire que lisant ce manifeste, j'ai eu l'impression qu'il était acquis que le progrès se manifestait par le capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme et le progrès étaient synonymes. Or, on peut, à l'inverse, opposer l'idée contraire de dire que le capitalisme, c'est ce qui peut aussi faire obstacle au progrès. Et c'est contre-intuitif, parce qu'on a l'impression que cette assertion est fausse, et que c'est vraiment l'inverse qui est vrai, que le capitalisme, c'est le facteur de progrès, et qu'aucun autre système, aucune autre logique d'organisation de notre espèce est en capacité d'être autant progressiste. Et cette idée-là, défendue par le manifeste, que non, le capitalisme est un obstacle au progrès, c'est cette idée-là que je trouve oui, un peu hétérodoxe, une idée hétérodoxe qui peut faire sens, parce qu'une fois qu'on pose ce constat, alors on peut imaginer d'autres formes d'organisation. Moi, je l'ai appelé expérience totale, comme un hors-limite ou un aller aux limites, qui est une sorte de concept pour dire, puisque le capitalisme, que j'ai appelé moi logique d'ensemble capitaliste, est ce qui va faire obstacle à l'aller aux limites, qui va faire obstacle à d'autres formes d'expérience et à une créativité sans aucune limite, eh bien, que pouvons-nous imaginer comme autre système d'organisation pour pouvoir aller vers nos plus grande limite créative, puisque si nous sommes des hommes, si nous sommes dans cet état-là, c'est notre capacité intellectuelle, notre capacité créative qui nous fait tenir tel, c'est-à-dire l'utilisation de notre intelligence, c'est ce qui nous distingue de tout ce que nous connaissons, et notre usage de l'intelligence, autant l'utiliser jusqu'au bout, dans une souveraineté absolue, en fait. Et jusqu'ici, on pouvait imaginer que c'était le capitalisme qui incarnait cela, et qui avait permis cette sursaut intellectuel et d'intelligence de l'espèce humaine. Or, on peut en faire l'intuition contraire.
Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir dans ce que tu proposes ici. La première, c'est la référence très fréquente que tu as faite à la notion de limite, d'illimité ou de limite. Et là, il me semble que c'est vraiment très, très juste, très important et à préciser. À savoir que, je me rappelle, ça doit faire une dizaine d'années, messieurs Dardot et Laval, que j'aime bien, qui viennent faire de quelque chose sur le commun, qui avaient fait une critique que je trouvais intéressante de Negri et des négristes au début des années 2000. Dans cette critique-là, ils identifiaient clairement le capitalisme justement à l'illimité. Et je trouve que c'est une critique très juste à faire du capitalisme que de dire... Ça a une fonction. Alors, il y a un mot que j'aime bien, qu'on en parle pas mal dans les milieux écologistes depuis quelques années, qui me semble intéressant et qu'on n'utilise peut-être pas assez en français, c'est la notion d'extractivisme. Extractivisme. Le capitalisme, on l'associe à l'exploitation. L'exploitation, c'est de sucer du travail et du profit du travail humain, de la main-d'œuvre, pour en tirer du profit pour les actionnaires. Exploitation, on connaît bien, c'est au cœur de la pensée et du vocabulaire marxiste. L'extractivisme, on imagine des mines d'or, des mines de charbon, etc., creuser sous la terre, extraire quelque chose dont on tire aussi du profit. Qu'est-ce que c'est que l'extractivisme ? C'est de profiter non pas du travail humain, mais, alors, pour employer un parallélisme un peu facile, du travail de la nature. À savoir qu'il a fallu des millions d'années pour que la Terre, appelez ça la nature, l'univers, la Terre, peu importe, produise du pétrole, produise de l'or, produise des métaux rares qu'on utilise maintenant dans nos téléphones portables. Il a fallu des millions d'années pour que ça se fasse. Ça s'est fait sans dispositif d'entreprise par action, sans rien du capitalisme. Et le capitalisme arrive au XXe siècle là-dessus, pompe tout ceci, donc l'extrait, sans du tout se préoccuper du renouvellement, à savoir qu'il va falloir des millions d'autres années pour pouvoir produire autant de pétrole, etc. Ni ne s'inquiète en amont du renouvellement, ni ne s'inquiète en aval des conséquences de mettre du CO2 dans l'atmosphère, etc. Et donc ce petit moment du capitalisme qui tire du profit de quelque chose, que ce soit le travail humain, que ce soit, disons, pour aller vite de nouveau, le travail de la nature, sans se préoccuper ni de l'amont ni de l'aval, là il me semble qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler alors exploitation ou extractivisme, c'est un peu la même chose dans deux domaines différents, et qui serait caractéristique du capitalisme comme tel, du néolibéralisme aussi, mais du capitalisme comme tel. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de la limite? On voit bien justement que le capitalisme est une sorte de folie de l'illimité, parce qu'il y a des limites sur ce qu'on peut tirer d'un corps humain pour travailler. Il y a des limites sur ce qu'on peut tirer de la planète Terre pour le brûler. Il y a des limites sur ce qu'on peut envoyer dans l'atmosphère sans foutre en l'air le climat. Et de dire, comme Dardot et Laval et comme plein de gens du côté de la pensée écologiste, que le capitalisme est par nature, mais c'est une nature viciée, l'illimité, hein, on accumule autant de profits que possible sans limite, il n'y a pas de limite à l'enrichissement. Là, on peut remonter à le plus beau texte là-dessus quand même, c'est John Locke, hein, le chapitre sur la propriété du deuxième traité sur le gouvernement, où il démontre, et il démontre d'une façon, d'une puissance philosophique que j'ai toujours trouvé éblouissante, que à partir du moment où on introduit quelque chose comme de l'argent, mais ça peut être, hein, qu'est-ce que c'est quelque chose qui ne dépérit pas avec le temps. Alors ça peut être des noisettes qui dureraient longtemps, ça peut être de l'or qui ne dépérit pas, ou ça peut être de l'argent. À partir du moment où vous introduisez ça, vous pouvez accumuler de la richesse sans limite. Donc ça, c'est autour de 1690. On a John Locke qui écrit ça de façon très claire. Et on a, depuis ce moment-là, toute une série de penseurs, de pratiques, d'idéologies, d'institutions, etc., qui roulent là-dessus. Il n'y a pas de limite au profit. Il n'y a pas de limite à la richesse, à la production de richesse. Et donc, de dire le capitalisme, c'est l'illimité, et c'est pour ça que maintenant, on rentre dans le mur écologique, ça me semble absolument vrai. En même temps, ce que toi, avec expérience totale, et les accélérationnistes depuis 3 ou 4 ans nous disent, c'est au contraire, le capitalisme, c'est ce qui nous fait une limite, c'est ce qui limite notre développement social, notre développement politique. Comment concilier les deux? Est-ce que le capitalisme est illimité ou est-ce qu'au contraire, c'est une limite au développement? Il me semble qu'il faut penser la limite en termes de dimension. Le capitalisme est illimité. Dans cette dimension particulière, il est unidimensionnel. C'était Marcuse qui parlait de l'homme unidimensionnel. Le capitalisme est unidimensionnel, c'est-à-dire qu'il est illimité dans la production de profit. Mais que cette production de profit dans cette dimension-là produit plein de choses, des fois sympathiques, mais des fois aussi calamiteuses, dans de multiples autres dimensions de la vie. Et qu'est-ce que, me semble-t-il, toi avec expérience totale et les accélérationnistes reprochent au capitalisme aujourd'hui, c'est que cette dimension illimitée de l'accumulation de profits actionnariales, financiers, etc., etc., eh ben, elle empêche, elle bloque le développement d'autres dimensions, d'autres poussées, d'autres progrès, d'autres avancées, d'autres développements. Et au point où, de nouveau, la planète devient invivable, nos esprits deviennent insoutenables dans la densité de ce qui s'y passe et de ce qui les sollicite, et nos rapports sociaux n'arrivent plus à se renouveler.
Ce qui m'intéresse aussi dans ce manifeste, c'est qu'il y a trois objectifs concrets. Ils se définissent trois objectifs concrets. Le premier serait de construire une infrastructure intellectuelle. Et pour cela, la tâche serait de créer une nouvelle idéologie, en tout cas de dépasser les idéaux qui gouvernent actuellement le monde. Le deuxième objectif serait de construire une réforme à grande échelle des médias. C'est-à-dire que l'apparente démocratisation permise par exemple par Internet, par les réseaux sociaux ou par les médias traditionnels continue de jouer, je cite, un rôle crucial dans la sélection et dans le cadrage des récits. Qu'il y a une libéralisation, qu'on pourrait appeler, de notre espace médiatique qui serait à faire. Et puis, il y aurait un troisième objectif que je n'ai pas très bien compris. Ils disent que nous avons besoin de reconstruire différentes formes de pouvoir de classe, qu'une telle reconstruction doit dépasser l'idée qu'il existe déjà un prolétariat global généré organiquement. Il faut travailler à tricoter de multiples fils disparates d'identités prolétariennes partielles, souvent incarnées sous des formes post-fordistes d'emploi précaire. J'avoue que ce troisième objectif, je l'ai pas compris. Et alors le fait qu'ils se définissent des objectifs comme cela, me rappelle que effectivement le capitalisme aussi quelque chose qui ne donne pas d'objectifs généraux. Alors leurs objectifs sont des objectifs concrets, sont pas des objectifs généraux, mais que le deuxième défaut du capitalisme ou de ce que j'appelle la logique d'ensemble capitaliste, c'est qu'elle n'offre aucun objectif général, si ce n'est enrichissez-vous individuellement. Il n'y a pas d'objectif général comme de dire nous allons explorer l'espace, nous allons accroître nos connaissances, nous allons accroître nos expériences de vie, nous allons transformer notre espèce pour devenir de nouvelles espèces. Ces objectifs généraux ne font absolument pas partie de la logique d'ensemble capitaliste.
Oui, merci. Alors ça, de nouveau, c'est très, très riche. Peut-être je commence par la fin avec ce que tu as dit sur l'absence d'objectifs généraux. Et après, on reviendra à quelques-uns des points plus concrets, des objectifs concrets que tu évoquais chez les accélérationnistes. Alors là, il me semble que tu touches du doigt quelque chose qui est précisément à la charnière entre ce qu'on peut appeler capitalisme, logique d'ensemble capitaliste, comme tu le dis, et néolibéralisme. Et là, moi, je retournerai quand même à la figure de Friedrich Hayek. Parce que Hayek, qui est quand même le grand penseur pour moi du néolibéralisme, enfin vraiment un grand penseur, c'est pas un petit rigolo, c'est quelqu'un qui a vraiment des idées très très puissantes, tout à fait visionnaires et pas facile du tout à réfuter. Et donc si quelque chose a pris dans le néolibéralisme, c'est sans doute parce que beaucoup de gens avaient intérêt à répandre ses idées, mais c'est aussi parce qu'il y avait une dynamique et une puissance dans ses idées. Et Hayek, qu'est-ce qu'il dit ? Ce qu'il appelle la Great Society, hein, la grande société, c'est justement celle qui donnerait à chacun le maximum de moyens pour poursuivre ses propres fins. Mais que les fins sont effectivement du domaine privé, personnel. Donc si moi je veux m'enrichir pour acheter une Mercedes, pour aller à la messe le dimanche matin, pour que tout le monde voit que j'ai une Mercedes lorsque je vais à la messe le dimanche matin, c'est ni à l'État ni à qui que ce soit de me dire que c'est plus méprisable que d'accumuler de l'argent pour financer des opéras ou pour faire un film ou pour faire une expédition dans l'Himalaya. Qu'on fait confiance de façon libérale, de façon généreuse, on fait confiance aux individus, on fait confiance à l'intelligence, à la raison et au désir propre de chaque individu pour lui dire « c'est votre problème de savoir ce que vous voulez ». Notre problème collectif, c'est de se donner un maximum de moyens pour que chacun de nous puissions faire ce que nous voulons. Et là, ce n'est pas néolibéral du tout, ça c'est libéral. On va chercher chez Turgot, on va chercher dans les penseurs des Lumières françaises ou des Lumières écossaises, et on a un idéal qui s'opposait à quoi ? Qui s'opposait à une société non seulement monarchique, mais surtout à une société théocratique, à une société qui mettait la religion, qui nous donne les bonnes fins de la vie humaine en parallèle avec le pouvoir politique. Et face à ceci, là, il me semble que, ben moi j'ai envie de dire qu'on est tous libéraux, qu'on est tous, le progrès dont tu parlais, la modernité, etc., c'est, je vois mal comment on pourrait ne pas reconnaître ceci. Donc, c'est pas aussi facile que ça de dire que... Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, le capitalisme ne nous donne pas d'objectifs généraux, mais peut-être que c'est pas plus mal que ça, qu'ils s'occupent, qu'ils nous disent « notre problème commun, c'est les moyens ». Et après, on fait confiance. Et là, il me semble que c'est vraiment une confiance, moi, je dirais, alors libérale, mais au sens libéral de gauche, non pas néolibérale, mais libérale de gauche. Les gens ne sont pas des idiots. Hein, c'est l'égalité des intelligences de Rancière. Les gens ne sont pas des idiots. Il n'y a pas ceux qui savent puis ceux qui ne savent pas. Et ce n'est pas à ceux qui savent de dire à ceux qui ne savent pas quel est le bien et qu'est-ce qu'il faut faire avec la société. Donc là, il me semble qu'il y a quelque chose de très anarchiste, peut-être très démocratique, très multitudinaire, dans ceci, de faire confiance aux gens pour... Après, le problème, c'est justement pour produire les moyens qui nous permettent de faire ce qu'on aurait envie de faire, donc, y compris des choses artistiques et autres. Là, la question, c'est justement celle des limites. Jusqu'où on peut produire en fonction de cette génération par rapport aux générations ultérieures, jusqu'où on peut exploiter les animaux, jusqu'où on peut... Là, il y a plein de problèmes dans les moyens. Et donc, tout ce qu'on discutait avant, ça se met là. N'empêche que cette absence d'objectifs généraux, c'est en même temps ce qui fait la force, me semble-t-il, du libéralisme, du libéralisme du XVIIIe siècle comme du néolibéralisme aujourd'hui, et donc de quelque chose qui est... alors, je ne sais pas, de nouveau, ça reste le problème, c'est peut-être un problème un peu trop académique, mais de distinguer libéralisme, néolibéralisme et capitalisme, peut-être que ça serait utile. Mais là, on ne va pas tellement le faire. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui est au moins ambivalent, je dirais, au moins ambivalent là-dedans. Maintenant, on ne va pas vraiment changer de sujet si on revient aux trois objectifs concrets que tu évoquais tout à l'heure chez les accélérationnistes, parce que lorsqu'ils parlent d'infrastructure intellectuelle, le modèle qu'ils ont en tête, c'est justement Friedrich Hayek. C'est la société du Mont Pèlerin que quelques intellectuels ont mis en place avec des gros financements. Ce n'était pas seulement des gens qui avaient des idées, c'est des gens qui avaient des connexions et qui ont eu plein de fric pour monter une sorte d'association, une sorte de petite institution en dessus du lac Léman au Mont Pèlerin, qui a alors fait des séminaires, qui a fait des livres, qui a fait des prospectus, qui a fait des colloques, qui a financé tout ça. Donc ça veut dire qu'il faut de l'argent, il faut des idées, il faut des gens qui sachent élaborer et diffuser ces idées. Et puis il faut des réseaux internationaux qui diffusent ceci depuis Lausanne en Suisse jusqu'au Chili vers Pinochet, jusqu'au Japon, aux États-Unis, etc., etc. Et donc... Le premier objectif que tu évoquais tout à l'heure des accélérationnistes, c'est de dire voilà une urgence dès maintenant qui est le néolibéralisme s'est imposé non pas parce que ses idées étaient plus belles, non pas parce que c'est une fatalité du destin, mais parce qu'il y avait quelque chose comme ça. Et nous, à gauche, on a été trop cons pour organiser l'équivalent. Il y a des petites internationales qui se bouffaient le foie, il y a eu des trucs à droite et à gauche, mais on n'a pas été capable de réunir ça. Donc, objectif immédiat, comment trouver du fric pour monter une association de ce type pour, voilà, pour se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait qui a marché ? Alors, forcément, aujourd'hui, il y a Internet, c'est différent des années 50, etc., etc. Mais raisonner en termes de stratégie et d'infrastructure intellectuelle transnationale, ce qui était le cas des accélérationnistes, des néolibéraux. Deuxième point, qui n'est pas la même chose, mais qui est lié, c'est de se dire... alors, bon, il y a plein de, déjà, au premier point, il y a plein de problèmes, à savoir qui va nous donner de l'argent. Ben, ça se tombe bien, le néolibéralisme, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui voulaient qu'on baisse leurs impôts, etc., qui voulaient garder leur argent pour eux, donc eux, c'était tout à fait dans leur intérêt de financer ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, a priori, de trouver quelqu'un qui voudra financer, disons, pour aller vite, une sorte d'institut accélérationniste qui réseauterait et diffuserait sur toute la planète la bonne parole accélérationniste, parce que les gens qui ont les multimillionnaires n'ont peut-être pas forcément intérêt à faire ça, quoique, mais bon. Donc là, il y a déjà toute une série de problèmes dans le premier objectif. Un des problèmes du premier objectif, c'est aussi qu'il ne suffit pas de faire des petits manifestes qui sont publiés dans des petites revues, il faut que ça accède aux médias de masse, et que là, il y a clairement un blocage au niveau des médias de masse du fait de l'infrastructure des institutions, que ce soit les appareils techniques, les câblages, les financements des institutions de médias de masse, que ce soit des grands journaux, que ce soit des grandes chaînes de télévision, que ce soit des radios, etc., etc. D'où le deuxième point, il faut absolument mettre tout en haut de l'agenda politique, hein, quand on fait un parti ou qu'on rentre dans un parti et puis qu'on décide ce qu'on va mettre dans le programme de ce parti pour les élections à venir, il faut mettre tout en haut la question de la réforme, de la restructuration des infrastructures masse médiatiques. Et là, moi, ce qui me sidère, c'est que, alors que les Républicains ne le fassent pas, ni Mme Le Pen, je comprends très bien, parce que eux, ça marche très bien. Le sarkozysme et le lepenisme, ils marchent à plein régime sur les infrastructures médiatiques actuelles, donc eux, ils seraient vraiment crétins de vouloir le changer. Mais tous les autres, que ça soit du centre pas trop idiot jusqu'à l'extrême gauche, il y a une évidence qui est que c'est le mode de circulation des images, des récits et des idées à travers des appareils médiatiques qui sont contrôlés par les logiques publicitaires, par les logiques d'ensemble capitaliste. Une des sous-logiques, je pense, tu seras d'accord avec moi, c'est la logique de financement des médias par la publicité, par les audiences, par la vente de temps d'attention d'audience à des publicitaires. Ceci est une sorte de cancer généralisé qui empêche une circulation d'idées, d'images, de récits, dont je pense qu'il est assez facile de montrer quand même qu'elle serait dans l'intérêt de l'ensemble de l'humanité. Et donc, aucun des partis politiques, du centre jusqu'à l'extrême gauche, ne mette cette revendication tout en haut de leur agenda politique. Moi, je trouve ça simplement désespérant, sidérant et franchement inexplicable. Il y a une raison, parce qu'ils ne sont pas cons, mais moi, je ne comprends pas la raison.
Et là, je t'interromps parce que je voudrais vraiment réagir là-dessus. Parce que c'est lié à toutes tes théories sur l'attention. Tes deux livres sur l'écologie de l'attention que tu as publié récemment, enfin, ces dernières années, où tu en arrives, enfin, c'est dans ton texte aussi, Accélérer l'écologie, où tu en arrives au fait que, une réforme politique des infrastructures médiatiques est vraiment quelque chose d'urgent, d'immédiat, qui serait à penser, à faire, parce que là, on est dans cette problématique d'une écologie de l'attention, c'est-à-dire, enfin, entre autres, il n'y a pas que ça dans tes théories de l'écologie de l'attention, mais c'est quand même une des idées forces qui fait que à quoi faisons-nous attention, à quoi notre attention, donc notre usage du cerveau, est pris et occupé et presque monopolisé. Et là, les masses médias ont, puissant, enfin quelque chose qui agit sur nous de manière très puissante.
Tout à fait. Hein. C'est pour moi, c'est deux façons de parler de la même chose. Hein. Il y a soit on parle des médias qui sont ceux qui nourrissent notre attention de plus en plus. Je peux très bien éteindre tous mes téléphones, toutes mes télévisions, toutes mes radios et me promener dans une forêt. En quel cas, il n'y a pas directement de médias entre moi et mon expérience. Mais de grandes parties de la journée, et pour nous plus que pour tous nos ancêtres, une grande partie de ce qui nous remplit la tête, ça passe justement par des médias. Donc il y a le côté médias, et là c'est des questions d'infrastructure, qu'est-ce qui passe, qui choisit ce qui passe, etc., etc. Et puis l'autre côté, mais on voit bien que c'est complémentaire, c'est l'attention qu'on investit dans ces médias, parce que des images qui passeraient à la télévision sans que personne les regarde, ça ne serait pas des images de télévision, des livres qui s'imprimeraient sans que personne ne les lise ne seraient pas des livres, et que entre l'attention humaine et les médias, l'un nourrit l'autre, et ils sont impensables l'un séparément de l'autre. C'est pour ça que tu as tout à fait raison, on parle d'écologie de l'attention, qu'on parle d'écologie des médias, finalement, c'est deux façons d'aborder un même problème, et ce qui est important, c'est l'interface entre les deux. Donc, dernière chose, parce que tu avais une question très, très judicieuse sur la troisième partie des objectifs des accélérationnistes, qui est ce truc un peu mystérieux. Moi, pour être honnête, j'ai traduit le truc, donc je vais essayer de comprendre ce qu'ils disaient, mais je me suis débrouillé pour que pour moi ça fasse un peu sens, sans que je voie non plus très, très précisément ce qu'ils avaient derrière la tête. Ce que moi j'ai compris sur ce troisième objectif, donc on reprend, le premier c'est une infrastructure intellectuelle pour faire circuler des idées à l'échelle mondiale, le deuxième c'est une réforme, malheureusement ou pas malheureusement, je veux dire. C'est quand même largement à l'échelle nationale que la réforme des médias peut être pensable. Et ça nous fait voir aussi cette chose que si tout le monde se plaint de ce que l'Europe n'existe pas, de ce qu'il n'y a pas de pensée européenne, etc., on peut dire, c'est en partie du fait des élections, du fait que comment les élections sont construites, finalement on élit toujours à l'intérieur d'un pays, même si on envoie les gens à Bruxelles. Donc on peut se poser des questions en termes de droit constitutionnel ou autre sur comment composer les élections. Il me semble qu'il y a un truc beaucoup plus évident, c'est qu'il n'y a pas de médias européens. Il n'y a pas de médias européens. Il y a quelques médias mondiaux comme CNN ou comme The Economist. Et c'est d'ailleurs pas un hasard, peut-être, si The Economist, c'est justement le néolibéralisme. Et c'est justement depuis le Mont Pèlerin jusqu'à The Economist aujourd'hui, on a tout cet échelonnement de gens qui font des livres comme Hayek et de gens qui chaque semaine nous donnent la vulgate du néolibéralisme. Et moi, je suis abonné à The Economist parce que je trouve que c'est un journal absolument génial. Ils ont des vistas, ils ont des données, ils ont des choses qui sont tout à fait splendides. Et le simple fait que toute la planète, que tous les décideurs de la planète lisent The Economist, même s'ils disaient des conneries, et ça serait comme ça que le monde fonctionnerait. Donc j'ai à la fois une grande admiration pour le style et la réussite intellectuelle de The Economist, en même temps qu'un dégoût profond pour les idées qu'ils essayent de faire passer, souvent, parce que des fois je suis d'accord avec eux. N'empêche que tout ceci, médias ou infrastructures intellectuelles, c'est lié. Et tout à l'heure, je disais, oui, mais qui est-ce qui financera un institut accélérationniste? Le Mont Pèlerin, c'était financé par des riches qui avaient intérêt à payer moins d'impôts. Donc là, il n'y a pas de souci. Qui est-ce qui financera ça? Je crois que le troisième objectif qui s'entrevoit, c'est justement de se dire, repensons les rapports de classe. Repensons les rapports de classe différemment. Et là, je ne me rappelle plus s'ils le disent, parce que je traduis ce truc il y a un peu longtemps, mais il me semble qu'ils pourraient tout à fait, voguant un petit peu dans la dimension négriste, ils pourraient parler de cognitariat. Hein, qu'est-ce que c'est que le cognitariat? C'est justement une sorte de réécriture du marxisme qui dit, au XIXe siècle, le prolétariat, les travailleurs en usine, étaient finalement une minorité. au moment où Marx écrit ses textes. Hein, il y avait une masse de paysannerie. La paysannerie quittait les campagnes pour se faire employer dans les usines, mais ça restait une minorité. Et c'est sur cette nouvelle classe-là que Marx a développé sa pensée et que tout un socialisme, communisme, etc. S'est développé pendant un siècle et demi. Et d'ailleurs, ça me permet de préciser que lorsque je disais tout à l'heure que le capitalisme était à l'évidence un facteur de progrès, moi, je nuancerais ça. Enfin, en même temps, je comprends très bien, il y a tout à fait de très bonnes raisons de dire ça, mais il me semble qu'on peut aussi mettre une note en bas de page en disant « Le capitalisme était un facteur de progrès dans la mesure où il était toujours limité, si on parle de limite, par un autre. » Et que l'autre du développement capitaliste industriel, ça a été les syndicats, le socialisme, les mouvements communistes qui ont fait peur, qui ont limité parfois par la violence, l'emprise et le monopole du capitalisme. Donc est-ce que le progrès était le fait du capitalisme, comme tu l'as dit tout à l'heure? Est-ce que le progrès était le fait d'une dynamique oppositionnelle entre une logique d'ensemble capitaliste et quelque chose qui lui résistait de l'intérieur de la part d'organisations disons syndicales, de gauche, communistes, socialistes, etc. Peut-être que c'est cette dynamique oppositionnelle qui a été facteur de progrès que maintenant, on voit qu'elle perd cet équilibre qui a eu lieu. Alors, comment soit récupérer cet équilibre pour opposer quelque chose à la logique d'ensemble capitaliste, soit simplement la dépasser? L'idée, je crois, de cette troisième partie, nouveau pouvoir de classe, c'est de dire, d'une part, il y a un cognitariat qui serait quoi? C'est les gens qui travaillent dans... Alors, on va aller vite, dans la production de ce qui arrive sur le web. La production de ce qui arrive sur le web, un autre marxiste proche de ces gens-là, qui s'appelle Mackenzie Work, parle de classe hacker. Hein, la classe hacker, les hackers, mais au sens très très large, où chacun de nous, finalement, on fait des choses avec Internet, que ce soit pour poster nos photos de famille, que ce soit pour poster des textes, que ce soit pour mettre des revues, que ce soit pour mettre des radios, que ce soit tout ceci. On nourrit Internet de contenu. Ce qui fait la richesse d'Internet, c'est nous. C'est cette web radio, c'est les textes qu'on met en ligne, c'est les images qu'on fait circuler, etc. Donc nous, on va tous nous appeler la classe des hackers. Ou on peut nous appeler plus précisément le cognitariat dans la mesure où c'est nous qui faisons fonctionner par nos connaissances, là, nos affects, etc., etc., tout ce qui circule, tout ce qui se capte comme profit sur Internet, et que là, on n'a pas pris, alors ce qui s'appellera en termes marxistes, une conscience de classe. On bidouille tous nos trucs dans nos coins, mais on n'a pas l'impression d'avoir du pouvoir ensemble. Et que c'était ça quand même une fonction du marxisme, c'était de dire, vous êtes chacun dans votre usine, oui, vous êtes chacun exploité, oui, vous êtes chacun soumis au contremaître qui peut vous mettre à la porte, n'empêche qu'ensemble, faites grève, et puis regardez ce qui se passe au capitalisme. Donc ensemble, vous avez un pouvoir. Et ce pouvoir collectif de classe, de fait, le cognitariat ne l'a pas encore développé. Donc là, ça serait une façon de lire cette phrase que tu citais tout à l'heure. Une autre façon, parce qu'il parle aussi d'autre chose, c'est de, là ça serait jouer un petit peu sur la notion de multitude, qu'il n'y a pas une identité. Même dire le cognitariat au singulier, en disant que c'est la nouvelle classe qui va renverser je ne sais pas qui, moi j'y crois pas, et je crois que personne n'y croit là-dedans. Pourquoi? Parce que le cognitariat, ça, c'est une des identités, et qu'on ne peut pas se réduire ni à l'identité française, ni catholique, ni athée, ni quoi que ce soit, parce qu'on est tous entre plusieurs identités, et que c'est justement des espaces de coalition entre des identités par essence plurielles et multiples qu'il faut essayer de constituer, que la politique, ça se constitue par là. Et c'est pas par hasard si les mouvements féministes, si les mouvements gays ont finalement été les grandes réussites de la fin du XXe siècle. On parle toujours d'une sorte de tunnel où la politique serait morte après la fin du marxisme. Pas du tout. Il y a plein de choses merveilleuses qui sont en train de se passer, qui se sont passées, mais justement pas selon des lignes traditionnelles de classe ou d'identité habituelle, plutôt sous d'autres choses. Et je crois que les accélérationnistes sont assez intelligents pour se rendre compte que c'est dans ces dynamiques-là, dans ces dynamiques qui ne sont plus simplement la guerre des classes avec d'un côté le cognitariat et de l'autre les capitalistes, mais qu'il y a plein d'autres choses qui doivent enrichir ceci et dynamiser un petit peu cela, que doivent se passer de nouvelles restructurations de quelque chose qui finalement mérite quand même de recevoir un intitulé de classe, parce que c'est l'appropriation du profit qui compte. Et là, il me semble qu'on le voit très clairement aujourd'hui sur Internet, où justement, nous, la classe des hackers, nous mettons plein de choses. Et en même temps, alors moi j'ai de la chance parce que j'ai un poste à la fac et c'est l'État français qui me paye, mais si on fait une radio aussi belle que soit ta radio, t'arrives pas à faire financer ta radio. Donc tu fais un travail énorme, tu fais des choses dont beaucoup de gens bénéficient, comment est-ce qu'on va réussir à capter un petit peu de profit qui va financer plein de saloperies pour que ça finance le travail que tu fais sur les radios et pour qu'il y en ait plus, etc. Et là, on peut s'intéresser à des questions de gays, de féminisme, etc. Et c'est merveilleux. N'empêche qu'il y a quand même quelque chose sur qui se ramasse le profit et par quelle entreprise collective, par quelle pression, par quelle coalition, par quelle forme de syndication, on arrive à récupérer, à reclaim, hein, à revendiquer une partie de ce profit qui maintenant se fait sur notre dos sans qu'on puisse le récupérer pour financer ce qui nous semble beau.
On en arrive, Yves, à ton texte « Accélérer l'écologie », où tu nous expliques pourquoi on ne peut pas ne pas être accélérationniste. Je te cite, et là, il va falloir de longs développements, parce qu'il y a un concept que tu utilises qui est celui d'hyper-objet qu'il va falloir que tu nous définisses. Parce que nous ne pouvons pas nous débarrasser des saloperies hyper-objectales que nous lègue la modernité, et parce que nous avons besoin d'accélérer les techniques de détection et de computation de ces hyper-objets visqueux et non locaux, on ne peut pas se permettre de ne pas être accélérationniste. J'aimerais que nous parlions de ça. Donc là, il y a des définitions. Il va falloir définir ce qu'est un hyper-objet, comment ça fonctionne, et justement comment il est important d'avoir et d'accélérer les techniques de détection et de computation de ces hyper-objets qui sont à la fois visqueux et non locaux.
Alors, je vais juste peut-être faire un tout petit mot de préface avant de rentrer dans la question des hyper-objets pour préciser. Donc, tu as commencé en lisant un passage, j'imagine, parce que là, j'ai un peu oublié cette affaire, mais où je disais qu'on ne peut pas ne pas être accélérationniste. Et là, j'aimerais juste faire une précision que j'avais fait en traduisant le texte dans Multitude. J'avais rajouté un petit article où je disais ce que moi, j'en pensais, parce que moi, je traduis, et c'est tout. Et je disais que je trouvais ça très inspirant, très beau, comme un des deux grands moments, il me semble, potentiellement politiques du présent, à savoir que ce qu'il nous propose comme dépassement par la technologie des obstacles à ce que pourrait nous permettre cette technologie au 21e siècle, donc des obstacles de rapport de propriété, disons, et de rapports sociaux, de rapport de pouvoir propre au capitalisme, là, ça me semble tout à fait inspirant et très juste. En même temps, plutôt dans leur écrit que dans leur personne, je crois, ce que je connais en tout cas de Nikstrnicek, il y a une sorte de condescendance et de condamnation dans leur manifeste par rapport à toute une série d'actions que la gauche a faites. Et je trouve que de secouer un peu les pouces de ce qui s'appelle la gauche, c'est plutôt bienvenu. Donc là, moi, je suis d'accord avec eux. De dénoncer une large partie de ce qui s'est fait appeler de gauche comme absolument obsolète et comme aussi calamiteux finalement aujourd'hui que le reste, tout à fait d'accord. N'empêche qu'ils ont un tout petit peu tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain en condamnant sous le terme de Volkspolitik, hein, folklore politique, la politique un peu folklorique, des choses qui, moi, me sont très chères, comme les ZAD, comme les mouvements locaux, comme l'idée qu'on sort de la ville et on essaye d'avoir une vie un tout petit peu soutenable avec quelques chèvres ou quelques collègues dans le retour aux campagnes. Moi, je ne me moque pas du tout de ceci, comme ils ont l'air quand même un tout petit peu de le faire, et je ne le condamne pas parce qu'il me semble que ce n'est pas du tout l'un ou l'autre, que c'est les deux, et l'un et l'autre sont insuffisants. Alors, c'est pas seulement avec des chefs qu'on va sauver le monde, et c'est pas non plus seulement en croyant à la technologie qu'on va sauver. Donc, pour moi, il faut absolument garder les deux, et les ZAD, et l'accélérationnisme. Et là, on va en débattre en mois d'octobre avec Nick. Je ne sais pas s'il est d'accord là-dessus, mais en tout cas, moi, je vais en tout cas affirmer ceci clairement. Cela dit, par rapport aux hyper-objets, donc ça, c'est une catégorie que je reprends d'un philosophe, je crois qu'il est anglais, mais je ne suis pas sûr, en tout cas anglo-saxon, qui s'appelle Timothy Morton, M-O-R-T-O-N, Timothy Morton, qui a fait un livre qui s'appelle Hyper-Objects, dans lequel il dit quoi ? Il dit que nous avons un problème, alors on va commencer par simple, un problème d'échelle. Il y a un certain nombre de choses, alors c'est justement pas des objets, c'est pas des choses, il y a un certain nombre de trucs qui dépassent la portée de nos sens, la portée de nos capacités à concevoir, à penser, à saisir. Hein, quand on dit saisir, conquipere, le concept, concevoir ou saisir, tout ça c'est la même chose, ça veut dire qu'il y a un objet, puis on peut mettre les bras ou la main autour pour le prendre, pour le saisir. Et que là, quelque chose comme le nucléaire, quelque chose comme les pesticides, quelque chose comme le dioxyde de carbone ou le changement climatique, on n'arrive pas à le saisir. On ne peut pas le prendre comme une boule qu'on prendrait ou comme un crayon qu'on prendrait dans ses mains. On ne peut pas le saisir, on ne peut pas le concevoir, conquipere, le prendre avec. Pourquoi ? Parce que c'est partout, c'est diffus. Les pesticides, ils sont partout. Ils sont dans les champs, mais après, ils vont dans les rivières. Et puis, voilà. Le nucléaire, c'est où ? Ben maintenant, on peut dire encore, parce qu'on sait où on a des centrales, et puis on sait où on a fait des explosions. Mais assez vite, ça va, on les enfouit un peu partout. Il y en a dans la mer, on va en retrouver partout. Où il est le nucléaire, il sera partout. Même chose pour la perte de biodiversité, etc. C'est toute une série de choses. On a des noms, donc on peut mettre un nom dessus. Mais on est complètement démunis face à ce qu'on pourrait faire en termes de policy, en termes de réglementation. Alors, on peut faire des choses, et le drame, c'est qu'on ne les fait pas du tout, donc, ou très peu. Donc oui, on n'est pas complètement démunis, il faut lever les bras au ciel, tout est foutu, et puis on saute en bas des ponts, ce n'est pas ça. N'empêche que, ne serait-ce que conceptuellement, et ne serait-ce que mesurer les conséquences de ce que nous avons fait, on a beaucoup de peine. Et donc pour ça, il sort le terme d'hyper-objet. Le nucléaire, le changement climatique, etc., ce n'est pas des objets de pensée. Ça serait trop beau, c'est des objets de pensée. C'est des hyper-objets qui nous dépassent. Et alors après, il donne un certain nombre de caractéristiques à ces objets que maintenant, je n'ai plus complètement en tête. Mais donc, une d'entre elles, c'est que du point de vue de l'échelle temporelle, hein, le nucléaire, c'est, je crois, 200 000 ans. Ça va continuer à rendre la vie impossible si on est trop proche de ces machins pendant 200 000 ans. Hein, 200 000 ans. Homère, c'est 3000 ans. Hein, 200 000 ans. 10 fois plus, 100 fois plus. Hein, ça ne veut rien dire. Pour nous, 200 000 ans à l'échelle de nos petites sociétés humaines, ça ne veut rien dire. Donc, du point de vue du temps, du point de vue de l'espace, on n'arrive pas à les saisir parce que c'est partout, parce que c'est diffus, parce qu'il y a peut-être de la radioactivité ici ou il y a peut-être... voilà. Donc, du point de vue du temps, du point de vue de l'espace, du point de vue aussi... Alors, une des caractéristiques de ces hyperobjets, il dit que c'est visqueux. Tu as cité ça tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont visqueux ? Un visqueux, c'est le sparadrap qui nous colle au doigt. Hein, on veut le jeter, on le prend d'un doigt, il va sur l'autre doigt, et puis il nous colle, on n'arrive pas à s'en défaire. Typiquement, les déchets nucléaires, on ne sait pas quoi, on les enlève d'ici, on les met là, mais ça va foutre autant le bordel où on les met avant que où ils étaient après. Et puis d'ailleurs, ça laisse des traces entre deux, etc. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas jeter. Hein, l'expression qu'il prend, il dit « there is no away to throw ». En anglais, « throw away », c'est jeter, jeter loin. Jeter, ça veut dire foutre à la poubelle. Il n'y a pas de poubelle pour ces choses. Parce qu'on est sur Terre, et même si on essaie de les envoyer sur la planète, il y a toujours une chance que la fusée rate et puis que ça nous tombe dessus et que ce soit pire. Donc, il n'y a pas de « away » où on peut « throw », où on peut jeter ces choses-là. Donc, c'est visqueux. Ça nous colle partout et on ne sait pas quoi en faire. Alors, donc ça, c'est le concept d'hyper-objet. Et alors, pourquoi, moi, j'ai été repompé cette affaire ? Parce qu'il me semble que, justement, l'accélérationnisme, il se confronte à ceci. À savoir, ce n'est pas avec des petites chèvres et avec des petites réformes locales ou de défendre des marais qu'on va se débarrasser du nucléaire qui, de toute façon, est là. Que ce soit une mauvaise idée, enfin, je ne sais pas si on est tout d'accord, moi je trouve que c'est clairement une mauvaise idée, n'empêche que ça nous plaise ou non, c'est là. Il y a plein de choses qui sont là, issues de ce progrès, entre 50 guillemets, capitaliste, avec lesquelles il faut vivre. Et ces choses-là nous imposent des échelles, ne serait-ce que mondial, peut-être au niveau du système solaire, je ne sais pas, mais en tout cas planétaire. Et donc là, en même temps, les ZAD sont absolument nécessaires parce qu'il faut défendre des territoires, il faut occuper. Et on occupe des territoires, et on occupe là où on vit. Et c'est comment on vit avec des petits réseaux, si possible en circuit court, que la Terre pourra être habitée. Donc là, de nouveau, il ne s'agit pas du tout de condamner les ZAD, il s'agit de dire que c'est insuffisant parce que, faites l'aussi belle ZAD que vous voulez, vous aurez toujours des pesticides ou des saloperies qui vont venir vous toucher parce que y a pas de planète B, hein, there's no plan B, y a pas de planète B, on est tous sur la même planète et ces choses-là, parce qu'elles sont diffuses, parce qu'elles sont un petit peu partout et parce qu'elles sont visqueuses, elles vont forcément, elles nous reviennent à la figure. Donc de développer en parallèle une gauche accélérationniste qui justement vise vers ces hyper-objets qui doivent forcément passer par quelque chose de mondial et de planétaire, donc qui vont forcément passer par l'électricité parce que c'est que des médias électroniques qui nous permettent maintenant de travailler à l'échelle planétaire. Donc ça, je ne vois pas comment on s'en passerait. Et en même temps, forcément, ça serait absolument naïf et dangereux de dire « Ah ben non, faisons ça, soyons accélérationnistes, et puis on laisse, ça ne sert à rien d'occuper des territoires ou ça ne sert à rien de faire ce que font les zadistes. » Parce que non, finalement, on vit toujours sur des territoires et on ne peut pas vivre dans l'électronique ou dans le progrès abstrait du capitalisme. Donc de maintenir les deux, ce qui n'est pas facile, parce qu'il y a forcément des points de friction, il y a forcément des points de contradiction entre eux. Néanmoins, de se dire que l'objectif, c'est surtout pas de choisir l'un ou l'autre, mais c'est de les, d'essayer autant que possible de les garder ensemble. Là, pour moi, c'est le défi politique du contemporain. Je rajoute juste sur les radios, il y avait cette émission de radio sur France Culture que moi je vénérais, qui s'appelait Terre à Terre de Ruth Stegassi le samedi matin, qui a malheureusement été interrompue au printemps dernier, qui était la voix la plus belle, je trouvais, mais vraiment belle au sens esthétique, des mouvements zadistes, de ce type de mouvement-là. Moi, j'ai tellement appris en écoutant Ruth Stegassi et les gens qu'elle interviewait, parce que justement, ils critiquaient tout ce qui était, enfin pas tout, mais quand même très souvent, ils critiquaient des efforts au niveau de l'échelle mondiale, lorsqu'on essaye de lutter contre le climat en faisant des sortes de substitutions, on dépense ici quelque chose, donc on va faire des dépenses pour le climat en Amazonie ou autre, à chaque fois, ils avaient tout à fait raison de montrer que c'était insuffisant, que c'était hypocrite, que ça nourrissait autant la machine à détruire que ça n'avait l'air de compenser des petites destructions, etc. Donc, en même temps, il est absolument nécessaire que les zadistes critiquent, je dirais, les gens qui se basent sur les technologies planétaires pour essayer de sauver ceci. En même temps, il me semble qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre les deux, sans ça, même un dialogue critique, parce que sans ça, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir.
Et alors, tu as expliqué l'hyperobjet, et il y avait un autre élément, c'est que nous avons besoin d'accélérer les techniques de détection, donc les techniques de détection et de computation de ces hyperobjets.
Alors là, c'est de prendre, me semble-t-il, de nouveau, tous les... Moi, je suis assez... Alors peut-être que c'est parce que je viens du XVIIIe siècle, où il y a plein de littérature et de contes merveilleux, mais moi, je continue à penser chaque fois que j'utilise Google que c'est de la merveille. C'est marvel, c'est merveilleux, au sens où j'ai beaucoup de peine à comprendre comment ça fonctionne. Je pense pas forcément que c'est un dieu là derrière, une providence ou un bon génie. J'imagine que c'est des trucs humains qui se sont construits, et je remercie les gens qui ont construit ça. Mais ça reste absolument émerveillement, enfin ça reste de l'émerveillement ou de l'admiration. Spinoza aimait pas l'admiration, parce que quand on admire, on comprend pas. Mais pour moi, c'est de l'admiration et de l'émerveillement devant tout ceci. Donc tout le discours contemporain, une grande partie du discours contemporain qui ne voit que de la surveillance, que du contrôle, que de la flicaillerie, que voilà, derrière Internet, qui ne serait là que pour nous pomper toutes nos idées et pour nous forcer à acheter je ne sais quoi, c'est de nouveau la moitié de la vérité, mais il y a une autre moitié qui est cette merveille. Et il me semble qu'une façon de réfléchir à ça, c'est de se dire tous les big data, dont aujourd'hui, si on devrait faire des associations de mots, mais si on regarde Big Data aujourd'hui, si on n'est pas grand capitaliste, investisseur, etc., nos milieux à nous, la plupart du temps, c'est de dénoncer ça comme quelque chose de très dangereux, de nouveau, pour de très bonnes raisons. Il y a quelque chose d'autre qui est que c'est ce traitement algorithmique à très grande échelle, justement hyper accéléré, parce que c'est des nanosecondes, de quantité de données énormes, il me semble que ça peut quand même nous aider à comprendre la complexité de notre monde. Et de se dire, dans les big data, avec quelque chose comme l'apprentissage profond, le machine learning, l'apprentissage profond, qui développe des algorithmes qu'on dit d'apprentissage non supervisé, on met plein de données, et puis on essaye de regarder quelles corrélations en émanent, que là, il y a vraiment des formes de pensée non humaines, ou alors... méta-humaine, parce que c'est quand même des gens, c'est des humains qui mettent les données, c'est des humains qui font les algorithmes, c'est des humains qui regardent les données, donc c'est bien une réalité humaine. N'empêche qu'il y a un moment automatique, il y a un moment de machinerie là-dedans qui nous permet de dépasser les limites, on parlait de limites tout à l'heure, les limites de nos idéologies, de nos imaginaires. Et de se dire que plutôt que simplement craindre et pleurer devant le contrôle généralisé qui passe à travers les ordinateurs, l'électricité et les big data et les serveurs, de se dire que oui, il y a plein de dangers, mais que c'est quand même notre condition et notre défi que d'utiliser ceci comme des outils de quoi d'émancipation, mais l'émancipation par rapport aux asservissements humains, mais de survie, simplement des outils de survie au sein de cette planète Terre, qu'en même temps que les serveurs polluent de plus en plus, la pollution par la production d'électricité est dédiée à des serveurs et à nos engins. Donc, de nouveau, on peut tout à fait noter ça et s'en plaindre, ou en tout cas en être préoccupé. En même temps, de dire que ça nous donne des opportunités absolument inédites pour essayer de trouver des solutions absolument inédites et absolument inventives et absolument créatives, comme tu le soulignais tout à l'heure en parlant d'expérience totale, et que le numérique est autant notre allié qu'un ennemi potentiel, Moi, on l'entendait beaucoup dans les années 2000, et là, on l'entend de moins en moins, et ça m'inquiète un petit peu.
Merci beaucoup, Yves. Merci.